Ce podcast est une présentation de l'entreprise de signalétique et d'affichage Bromar. Ne manquez pas mon nouveau segment au milieu de l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, je reçois Georges Karam. Vous connaissez peut-être Georges de la populaire émission L'œil du dragon. Georges est un entrepreneur à nombreux succès et a cofondé Atelka avec Claude et François Lambert, une des plus grandes entreprises de gestion de contact client. En 2016, sous sa direction, Georges a orchestré la vente d'Atelka à TTEC, un des leaders de l'industrie. Salut Georges, ça va bien?
Salut.
Je suis vraiment content que tu sois là. Je suis même honoré parce que j'ai tellement entendu des bons mots de toi. Depuis ce matin, j'ai parlé à François et Nicolas Duvernois qui m'ont juste dit des belles choses sur toi.
J'espère en tout cas.
Nick m'a dit que tu étais une des personnes les plus, je pense, underrated de l'œil du dragon parce que les gens ne savent pas à quel point comme t'es next level. C'est ça qu'il m'a dit, en gros.
Mais merci Nick, c'est gentil de sa part. Puis c'est vrai, parfois. Donc, avec un peu toute humilité, mais non, mais parce que, bon, tu le sais, moi, je suis un peu plus dans le domaine de la technologie, donc je ne suis pas dans un domaine de B2C. Mm-hmm. Donc, ce qui fait que, bon, le monde ne me connaissait pas avant. Mm-hmm. Puis je suis très, d'ailleurs, reconnaissant pour cette opportunité que j'ai eue d'avoir la chance de partager mon parcours, mon expérience avec Dans l'œil du dragon. Mm-hmm. Et donc, m'asseoir aussi avec, à côté de Isabelle, David, Nick, Christiane, sont toutes des personnes qui apportent une expérience incroyable. D'ailleurs, mm-hmm. on a tellement du fun chaque année. Mm-hmm. On rit, on partage, mais on aussi, surtout, on connaît, puis on rencontre tellement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, là, mm-hmm. qui nous inspirent mm-hmm. et qui nous poussent à continuer.
Mm-hmm. C'est vraiment cool, puis j'allais en parler plus tard, mais vu qu'on est dans le sujet... Pour toi, avec toute ton expérience, parce que là, ça fait 4 saisons que t'es dragon, qu'est-ce que tu penses qui fait un bon pitch? Qu'est-ce que tu dis, ah oui, cette personne-là, c'est vraiment impeccable?
Un, c'est être transparent, mm-hmm. puis être vraiment authentique. Pour okay. moi, bien, on les voit tout de suite, les pitchs qui... tu sais, c'est toujours important de se préparer. Là, je dis pas qu'il faut juste arriver, puis... raconter l'histoire telle qu'elle. Donc, la préparation est importante, mais mm-hmm. le plus important pour moi, on voit, c'est l'authenticité des personnes. Mm-hmm. Donc, avoir des personnes qui connaissent bien leur histoire, qui connaissent bien leurs produits, leur mm-hmm. compagnie, qui sont capables de communiquer leurs valeurs, mm-hmm. Communiquer leur idée, ça, c'est extrêmement important. Puis, clairement, pour nous, ça a toujours été, moi, je me dis toujours, la première impression d'un entrepreneur. Quand je regarde quelqu'un puis il commence à parler, puis on le sait, hein, les premières, je pense, tout le monde dit, c'est la première, je pense, 6 secondes qui ouais. fait l'impression. Mm-hmm. Dans les entrevues, d'ailleurs, ils disent que, en général, quand tu passes quelqu'un en entrevue, après 6 secondes, tu as déjà une idée si tu aimes ou non la personne. Et tu commences à poser des questions mm-hmm. en conséquence. Donc, si tu aimes la personne, mais tu es un peu biaisé, tu poses des questions pour que tu valides, donc, si tu veux, ta perception et vice-versa. Mm-hmm. Et donc, pour nous, ça, c'est mon premier feeling. Est-ce que cette personne, je suis en mesure de m'asseoir avec lui ou avec elle, prendre un café et travailler? Mm-hmm. Parce que si on n'arrive pas à s'entendre à ce niveau, mais on ne pourra pas collaborer après pour le travail, même s'il y a des bonnes idées. Mm-hmm. Parce que le partenariat, c'est comme un mariage. Hein. C'est mm-hmm. encore même parfois plus intense qu'un mariage. Tu as parlé avec François. Oui. Certainement, il t'avait peut-être partagé beaucoup d'histoires. Mm-hmm. Moi et François, on a travaillé ensemble tous les jours pour des années. Et donc, c'était extrêmement important qu'on ait en mesure, donc, de se respecter. Mm-hmm. Et puis, deux, d'être en mesure de se challenger. Mm-hmm. Et puis, donc, pour collaborer, pour arriver à nos buts.
Et comment vous êtes rencontrés, toi puis François? Parce qu'après, on va revenir un peu de toute ton enfance, puis quand tu es arrivé au Québec et tout, mais juste savoir comment vous êtes rencontrés, toi puis François Lambert.
Ben, François, je l'ai connu en 96, je pense, en tout cas, okay. 96 ou 17 max, là. Donc, je travaillais pour une compagnie dans le domaine des centres d'appel, dans le domaine de télécom. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est ça qui avait un peu dessiné notre destin après, puis qui nous avait conduit à développer, à cofonder AIVA en 2000, puis mm-hmm. à Atelka en 2003. Donc, François, c'est ça. Moi, je travaillais pour pour Univoc en 94. Ça, c'était le début de ma carrière. Okay. Puis en 96, François aussi cherchait des opportunités. Mm-hmm. Et donc, il s'est joint à l'équipe, puis on est devenus des amis. Ça a cliqué tout de suite avec François. On a eu aussi avec Claude qui s'est joint après à nous comme partenaire. Mais donc, on est devenus des amis mm-hmm. au travail. On partageait aussi parfois des mêmes passions. On a eu une opportunité, un projet qu'on voyageait chaque semaine à Saint John, New Brunswick pour le travail. Donc, ce qui fait qu'on est devenus des très bons amis. Puis, quelques années après, on a décidé de se lancer en affaires les deux.
Ah, vraiment cool. On va en revenir de tout ce passage de Haïva et Atelka. Mais je voulais savoir un peu plus. Je pense que tu es né au Liban, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est passé? C'est quand que tu as quitté le Liban? C'était quoi la situation au Liban à ce moment-là?
Comment c'est passé? Mais c'est mes parents ont couché ensemble.
OK. Et donc, c'est un bon début.
9 mois après, ça fait un bébé. C'est moi. Donc,
Enchanté. Bonjour.
C'est ça. Moi, je suis né en 70. Donc, la guerre au Liban a commencé en 75. Donc, juste pour un peu donner une idée par rapport un peu à ma jeunesse. Donc, depuis que je me rappelais au Liban, donc en 75, quand j'ai commencé l'école, c'était la guerre civile. Donc, moi, j'étais élevé durant la guerre civile. Et puis en 90, donc j'essaie de faire une petite histoire courte, c'était un peu la fin de la guerre civile, mais c'était une année assez intense. C'est là où est-ce que mon père m'avait permis, parce que dans le temps, on demandait encore la permission de nos parents, m'avait dit, je ne peux plus t'empêcher de partir, parce que moi, j'avais toujours ce rêve de venir au Canada. J'avais mon oncle qui était médecin, Pierre. Je parle toujours de Pierre dans mes histoires. Il travaillait à Val-d'Or, puis quand il allait au Liban, lui, il est parti, il avait quitté le Liban en 82, puis quand il retourné au Liban pour des vacances pour la famille, il me parlait, puis il me disait, quand tu vas avoir 18 ans, je vais t'amener au Canada. Et c'est ce qui est arrivé quand j'ai eu 18 ans. J'ai fait la demande d'immigration. J'ai parlé avec Pierre. Il m'avait aidé. Donc, je lui dois beaucoup, mon oncle, parce que c'est grâce à lui, puis grâce à Émile, l'autre oncle, qui m'ont aidé à quitter le Liban. Donc, pour moi, c'est ça, le Liban. C'est un pays qui m'a donné beaucoup quand même. Puis je dis toujours, mais what doesn't kill you makes you stronger. Parce que, puis le monde, parfois, il se sent un peu... pitié, il y a en pitié, mais au contraire, moi, je dis, la guerre nous a donné un peu de résilience. Puis j'avoue que quand on est jeune, ça nous impacte beaucoup moins. Donc, tu sais, moi, je le vois, mes parents, après ça, parce que moi, je suis devenu père et j'ai été avec mes enfants au Liban. Puis à un moment donné, il y a eu quelques petits problèmes et j'ai senti c'est quoi avoir des enfants puis dans un environnement instable. Mais pour nous, honnêtement, la guerre au Liban, jusqu'à, je dirais, à la fin, parce que là, on devenait être un peu plus responsable. J'étais à l'université, donc on commençait à penser à notre avenir. Ça commençait à déranger, mais avant ça... Pour nous, la guerre, c'est comme une tempête de neige. Il n'y a pas d'école. Donc, quand ça devenait intense, on était un peu contents quand on était jeunes parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'école. Puis on restait dans des bunkers ou on partait au village. Donc, ça nous a impacté, je dirais, un peu moins que d'autres parce que je ne veux pas quand même banaliser la guerre parce qu'on était, on était privilégiés, chanceux de ne pas avoir eu, à part des dégâts matériels, beaucoup plusieurs fois. On n'a pas eu des morts dans notre famille, contrairement à beaucoup plus d'autres familles libanaises qui ont perdu plusieurs membres de la famille. Nous, on était chanceux. Ça a toujours été par des dégâts matériels parce qu'on avait eu toujours la chance de partir dans des coins qui sont un peu plus tranquilles.
C'est quand même fou de grandir dans cette enfance-là. Moi, ma mère est malgache, donc moi, j'ai vécu un an au Madagascar en 2008. Puis en 2008, il y a eu le gros crash et il y a eu un renversement de pouvoir. Et il y a eu une petite... C'était pas une guerre civile, c'était plus un coup d'État. Et je me souviens, j'avais 8 ans, mais je me souviens que nous, le président qui essaie de prendre le pouvoir, vivait dans notre village ou dans notre secteur. Et il y avait des camions militaires qui passaient, puis moi, je me disais... Puis des fois, on entendait des coups de fusil, mais des balles à blanc ou des bombes lacrymogènes, tu sais. Puis là, nos parents essayaient de faire comme non, c'est pas si grave, mais restez dans la maison. Puis je me souviens de comment on marchait dans les rizières pour aller à l'école. Et quand on entendait des coups de sifflet, ça veut dire que comme l'armée rentrait, donc il fallait revenir. Mais tu sais, c'est à mini échelle comparé à sûrement que tu as vécu au Liban. Mais je me dis, ça doit être fou de se dire, il y a des gens, ma famille, je connais des amis ou des membres de familles éloignées ou peu importe qui sont morts ou qui sont. Ça doit être fou.
Ouais,
ça.
Mais c'est fou. Puis honnêtement, l'être humain, il s'adapte. Hein, parce que même quand on était au Liban, on a toujours réussi, malgré qu'il y a eu plusieurs arrêts, parce que la guerre, c'est pas tous les jours. Hein, donc, il y en a parfois des cesse-feu, ça commence, ça arrête, puis c'est des régions, donc parfois le côté Beyrouth-Est contre Beyrouth-Ouest ou Sud-Nord, etc. Puis on s'adaptait. Donc, on vivait. Puis quand il y avait des cesse-feux, on sortait. On faisait notre magasinage pour aller acheter tout ce qu'on avait, l'épicerie et tout. L'école arrêtait des semaines. Après ça, ça reprend. Donc, j'ai fait compléter. J'étais en mesure quand même compléter mes études au Liban. J'étais même à l'université. Et donc, j'étais en deuxième année de droit. Je voulais être un avocat quand j'étais plus jeune. Et puis, donc, on a réussi à avoir une vie malgré tout. Puis c'est ça qui est vraiment impressionnant avec l'être humain. C'est pas juste les Libanais, là. C'est chaque pays qui a des problèmes. Comme ici, on s'adapte avec l'hiver. Parce que moi, mes parents, quand ils venaient après, quand j'avais eu mes enfants, puis ils ont commencé à me visiter, ben, les Libanais, tu sais, comme ma mère, elle préférait être dans un pays instable qu'avoir des moins 30, moins 40. Donc, chacun a ses problèmes-là. Oui. Donc, en effet, l'adaptation est un élément important dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, en business, on dit toujours, ben, c'est l'élément le plus important, c'est un peu avoir le open mind, de s'adapter avec la réalité de notre marché pour apprendre et pour ajuster notre plan.
Oui, 100%. Puis, quand tu es venu, et je pense que c'est à Rouyn-Noranda que tu es arrivé.
Oui, Val-d'Or.
Val-d'Or, qui est arrivé. C'est comme pas la place la plus, c'est comme facile à arriver, pas smooth. T'sais. Est-ce que tu as comme eu un choc qui fait froid? C'est loin de la grande ville.
C'est sûr, mais pour moi, au contraire, je vois ça comme une super belle intégration parce que, bon, tu sais, quand tu quittes le Liban durant la guerre, parce que c'est pas pareil maintenant, Beyrouth, nous, moi, c'était mon premier voyage. D'ailleurs. C'était la première fois que j'avais pris l'avion. Okay. C'était à Mirabel, parce que c'était avant Dorval. Et puis, mon oncle, ça a donné qu'il était en voyage, il était en vacances. Donc, il nous avait envoyé un de ses contacts, ses amis, pour nous prendre de l'aéroport. Première nuit, on était à Montréal. Okay. Donc, on a dormi à Montréal, parce que moi, je suis arrivé avec mon cousin. Et puis, le lendemain matin, cet ami nous avait conduit jusqu'à Terminus, à Berucam. Je me rappelle bien des détails. Là. Puis, je me rappelle, j'étais ébloui un peu.
Puis, c'était quel mois dans l'année?
C'était le mois d'avril.
Le
6 avril, c'est une date que j'oublie jamais, le 6 avril 1990. Donc, et pour nous, juste déjà le trajet, prendre le bus pour 5-6 heures pour aller à Val-d'Or avec les arrêts et tout, c'était toute une expérience. Puis le fait que je pense qu'on était dans un petit village pour commencer, ben, ça nous a donné la chance un peu de s'intégrer, de se reposer au début. Oui, il faisait plus froid, mais pour nous, le mois d'avril, que ce soit à Montréal ou à Val-d'Or, il faisait froid parce qu'il faisait déjà probablement 0 ou moins 5. Ouais. Mais je me rappelle bien qu'on était fascinés, puis qu'on était comme tout était nouveau pour nous. Tout était pour nous, là, parce que le Liban était un petit pays. Puis on arrive au Canada, donc où est-ce que tout est grand. C'était vraiment des mémoires incroyables.
Puis quand tu es arrivé, est-ce que tu as voulu continuer tes études en droit ou tu as oublié ça?
Oui, non, mais c'est ça parce que, bon, tu sais, quand on quitte notre pays, on ne va jamais dire « je quitte pour toujours » parce que c'est quand même une décision difficile à prendre. Là. Donc, pour nous, on quittait pour fuir la guerre, faire peut-être étudier, puis éventuellement retourner au Liban. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai pensé qu'est-ce que je dois faire comme étude. Donc, au début, j'ai décidé d'aller en économie parce que j'ai dit je peux faire un bac en économie. Après ça, quand je retourne au Liban, je peux compléter mon bac en droit. Donc, ça fonctionne bien ensemble pour travailler après. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un an en économie. Après ça, j'ai réalisé que je pense la chance de retourner au Liban, c'est moins, de moins en moins. Et donc, il n'y avait pas pour moi, j'avais commencé à un peu apprendre un peu sur le potentiel du marché et tout. Puis je trouvais que l'économie, ça allait être dur de trouver un travail, puis il fallait faire une maîtrise, etc. Donc, c'est là où est-ce que j'ai décidé de faire le switch vers l'informatique. Donc, j'ai fait un an à l'Université de Montréal en 90, fin 90. Puis un an après, j'ai switché à l'UQAM, puis j'ai fait mon bac en informatique.
OK, parfait. Puis est-ce que tout de suite, tu t'es trouvé un emploi? Puis est-ce que tu voulais avoir un emploi dans un centre d'appel ou ça s'est adonné comme ça?
Ah non, mais parce que pour nous, c'est ça. Quand j'ai fini mon bac en 94, le marché d'emploi n'était pas comme maintenant là, en informatique, parce que tout le monde pouvait trouver. Donc, ça m'a pris 2-3 mois. Moi, je cherchais un job, donc un emploi comme un programmeur, donc pas dans un centre d'appel. Et j'ai été avec la première compagnie qui m'avait accepté. D'ailleurs, Univogue, j'étais le premier employé.
Ah ouais?
Puis donc, pour moi, j'ai toujours dit, Le succès, puis on pourra parler un peu plus en détail, il y en a plusieurs ingrédients par rapport à qu'est-ce qu'il fait qu'on réussisse. Mm-hmm. Le timing parfois, la place, tout fait en sorte que ce sont tous des ingrédients importants. Donc mm-hmm. moi, le fait que j'étais dans une compagnie où est-ce que j'étais le premier employé, donc une petite compagnie, mm-hmm. ça m'a donné l'opportunité de toucher à plusieurs choses, donc de faire de l'informatique, mais aussi la gestion des clients, un peu de vente. Donc, ça m'a permis un peu de découvrir qu'est-ce que j'aime. Puis c'était une compagnie qui était spécialisée dans le domaine de la technologie des centres d'appel. Okay. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai été dans ce domaine après. Ce n'était pas une question de planification, ce n'était pas une question stratégique. J'avais l'expérience, je suis rentré chez Univoc, j'étais le premier employé, j'ai fait 2 ans avec eux. Après ça, je voulais me lancer en affaires à mon propre compte. Et puis, ça a donné que, c'est la seule chose que je sais, c'est l'informatique pour des centres d'appel. Et je me suis lancé dans les centres d'appel. C'est vraiment, parfois, ce sont les circonstances, des conséquences dans la vie qui font en sorte que on est qui on est.
Puis, est-ce que tu penses que le fait que tu étais le premier employé puis que tu as pu toucher à tout ça, tous les aspects de l'entrepreneuriat ou de la business, c'est ça qui t'a dit « OK, je veux partir de mon entreprise » parce qu'est-ce qu'avant, tu avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale-là ou…
Écoute, clairement, ça m'a aidé que je suis dans une compagnie puis j'avais le propriétaire de la compagnie, Jean-Guy. Mm-hmm. Déjà, en travaillant avec le boss, là, donc le propriétaire, ça t'inspire. Donc déjà, en partant indirectement, le fait que je voyais Jean-Guy, un jeune homme aussi, quelques années plus vieux que moi, il avait sa propre compagnie. Mm-hmm. Donc, je l'observais toujours, puis ça m'intéressait, donc ça me motivait. En même temps, parfois, le monde me demande, est-ce que tu avais le fibre entrepreneuriale? Mm-hmm. Est-ce que tu es né entrepreneur? Ou est-ce que tu as appris? Mm-hmm. Mais honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu es né entrepreneur. Mais moi, je dis toujours, je le répète toujours dans mes conférences, c'est que ce n'est pas important si on est né ou on apprend. Le plus important, je pense, c'est voir c'est quoi les ingrédients. Qu'est-ce que ça prend pour devenir entrepreneur? Puis moi, je l'appelle un peu le boussole entrepreneuriale. Okay. Parce que pour moi, la différence entre un entrepreneur et un intrapreneur ou un entrepreneur et un dirigeant d'une compagnie ou est-ce qu'il a évolué avec la compagnie, c'est le niveau du risque. Okay? Ouais. Parce que l'entrepreneur détient quelque chose que les autres ne l'ont pas, c'est sa tolérance au risque. Mm-hmm. Et pour moi, ça, c'est le meilleur test pour savoir est-ce qu'on est capable d'être entrepreneur ou non. Mm-hmm. Parce qu'il y en a peut-être beaucoup qui ont le désir de faire quelque chose. Ouais. Mais quand ça vient à le faire, il y en a quelque chose qui le retient. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de faire sauter d'une parachute, mais je le sais que je n'arriverai pas. Il faut quelqu'un qui me pousse.
Ouais.
Mais quand j'ai eu ce besoin de... Il y a eu des circonstances, des événements qui m'ont poussé à prendre la décision de partir en affaires, mais c'était ma tolérance au risque qui m'a permis de le faire. Donc, de sauter dans le vide, de ne pas avoir une certitude, si tu veux, qu'on va réussir, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, on ne sait pas si ça va fonctionner ou non. Mm-hmm. Et donc, pour moi, ça, c'est l'élément le plus important. Donc, quand quelqu'un me demande, est-ce que je dois être entrepreneur, je dis, je ne sais pas, mais fais-toi le test. Est-ce que tu es capable de te visualiser? Pas de salaire, t'as une maison, peut-être tu dois l'hypothéquer. Mm-hmm. Et comment tu te sens? Est-ce que tu es capable de vivre avec ça? Est-ce que l'anxiété va te ralentir? Mm-hmm. Ou tu es à l'aise avec et ça va te motiver de travailler? Mm-hmm. Donc, la tolérance au risque, pour moi, c'est l'élément le plus important pour savoir si on est des entrepreneurs ou non.
Mm-hmm. Oui, c'est vraiment intéressant ça. Parce que c'est vrai que n'importe quand, ça pourrait arrêter, puis il faut que tu sois prêt à vivre avec. T'sais, parce qu'on dit tout le temps, non, il faut juste penser que ça va bien, mais il faut quand même avoir l'option dans sa tête de dire, tu sais, ça ferme. Là,
c'est ça, parce que, puis le risque, parce que là, il y en a parfois qui me disent, oui, mais genre, mais toi, maintenant, tu prends des risques, mais c'est facile, t'as réussi.
Ouais.
Je dis non, parce que le risque est le niveau de risque, tout est relatif.
Ouais, donc, c'est ça.
Le risque que j'ai pris en 2000, ou même avant, parce que moi, avant, à IVA, j'ai déjà... Parce qu'on parle toujours des réussites, mais on ne parle pas des défaites.
Oui.
Moi, j'ai eu déjà deux... J'avais commencé avant ça, j'ai eu deux tentatives de business. Et puis, mais à chaque fois, le risque que j'ai pris, c'était relatif et c'était par rapport à ma capacité de prendre le risque. Parce
exact.
Que le plus important aussi, c'est pas prendre n'importe quel risque, c'est prendre un risque calculé, dans le sens qu'on est capable de passer un certain temps, parce que ça, c'est une des erreurs aussi que des jeunes entrepreneurs, ils font. Ils vont prendre un risque, ils vont se lancer en affaires en pensant que dans 3 mois, ça va fonctionner.
Ouais.
Puis, je dis toujours, faites toujours des scénarios conservateurs, optimistes et pessimistes, parce que malheureusement, la plupart de fois, c'est le scénario pessimiste qui arrive en affaires. Et ça, ça veut dire que, est-ce que tu as assez d'argent et du temps pour donner une chance à ton projet de réussir? Donc, moi, je dis, je fais mon forecast, je fais ma prévision, même maintenant, avec tous mes projets que je fais, et je m'assure que ma prévision, donc mon scénario pessimiste me donne 18 mois de temps pour m'adapter, pour trouver les solutions.
Ouais.
Et donc, pour moi, ça, c'est un élément extrêmement important.
Ah ouais, hein, c'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, tu sais, quand tu parlais de la quantité, le risque à différentes échelles. Tu sais, si quelqu'un a 10 000 $ dans son compte, puis il prend 9 500 $ pour faire son projet, c'est plus un gros risque que quelqu'un qui prend 1 000 000 mais qui a 10 millions dans son compte.
Ben, c'est ça. C'est relatif parce que combien tu as besoin pour démarrer ton business, puis aussi combien tu en as besoin pour le supporter et supporter les pertes au début. Nous, ça nous a pris, je dirais, au moins 3 ans avant que Aïva et Atalka commencent à voir un peu l'espoir, avoir l'espoir que, OK, on commence à avoir une chance de réussir.
Ouais.
Mais notre risque était calculé parce que, bon, on était en logiciel, donc on n'avait pas des coûts de matériel ou d'équipement élevés. On avait nos conjointes ou on avait un peu d'argent à côté. Donc, c'était notre temps, l'élément le plus important. Puis, on savait, quand François et moi, on s'est lancé en 2000, qu'on pouvait rester sans revenus pour au moins 18 mois.
Okay.
Et donc, on savait que n'importe quoi qui va arriver, on ne va pas lâcher avant. Et c'est ça l'élément le plus important. Donc, c'était combien on était capable de donner du temps à notre projet avant qu'on trouve la solution. Parce que, tu sais, on écrit des plans d'affaires parfois, mais je peux vous garantir que la réussite n'a rien à voir avec ton plan d'affaires initial.
C'est ça, c'est vraiment juste pour s'aligner, mais une fois rendu que les vrais problèmes arrivent,
il faut s'adapter.
Exact. Puis est-ce que tu peux me parler un peu du début, là, de quand tu as parti tes deux entreprises qui n'ont pas marché, pourquoi qui n'ont pas fonctionné? Est-ce que tu as appris des choses à ces moments-là que tu adaptes encore aujourd'hui dans tes projets?
Absolument. Puis, donc moi, ma première entreprise, c'était en 97, non, 96. Parce que quand j'ai rencontré François, techniquement, j'étais à mon propre compte parce que, bon, j'avais commencé, comme j'ai dit, avec Univoc en 94.
Ouais.
Et moins que 2 ans après, donc j'avais Claude qui était aussi, qui était un associé avec nous, qui était un ami de l'université avec moi. Et puis, Claude était un geek. Il est toujours un geek, en passant, Claude, là, il y a
maintenant.
C'est ça, on salue Claude. Il est toujours partenaire avec nous, associé dans Aïva. Donc, Claude était très fort techniquement. Et donc, ça a toujours été un peu mon support, même durant l'école. Et donc, quand j'ai commencé avec Univoc, puis je voyais qu'il y avait du potentiel, puis de la croissance, puis j'avais besoin de quelqu'un de confiance, mais j'ai recruté Claude. Donc, j'ai convaincu Claude de venir travailler avec nous chez Univoc. Et à un moment donné de frustration, sans rentrer dans trop de détails, je trouvais que c'était pas, j'étais pas bien payé, puis il y avait pas de bonnes conditions. Donc Claude et moi, j'ai convaincu Claude de se lancer en affaires avec moi parce que j'avais besoin de lui pour partir parce qu'on se complémentait. Donc ça, c'est un élément, première leçon de partenariat, d'entrepreneuriat. Je dis toujours, choisissez bien vos partenaires qui vous complémentent et qui n'ont pas les mêmes la même expérience ou les mêmes aptitudes. Exactement. Et donc, parce que je savais que si je suis avec Claude, j'ai une meilleure chance de réussir. Donc, je me suis associé avec Claude et notre premier client est devenu Univoc. Donc, on a quitté notre emploi puis on avait offert à Univoc notre service de consultation. Puis ça allait bien. Puis notre but, c'était de commencer comme des consultants puis commencer à grandir notre business. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Bon, on a rencontré François. Après ça, on a quitté Univoc. On a été chercher un autre contrat plus intéressant pour nous en 99. Et en 99, ça faisait 10 ans que j'étais au Canada. Puis j'ai eu un peu ce sentiment du retour vers mes racines.
Ouais.
Et pour moi, quand j'ai une idée en tête, il faut que je le fasse. Sinon, j'avais déjà deux enfants. Mon fils avait comme 2 mois. Okay. Ma fille avait 18 mois. Dans le temps, ma femme, mon ex maintenant, on est toujours des associés aussi. Elle était en maternité. Et donc, j'ai profité de cette occasion pour dire, il faut qu'on essaie de repartir parce que sinon, ça va rester dans ma tête. Mm-hmm. Puis moi, j'aime pas ça procrastiner. Okay. Et ça, ce qui est arrivé, donc on était obligé de comme fermer la compagnie, partir au Liban. 6 mois après, j'ai réalisé que c'était une mauvaise décision. Okay. Pareil, moi, je ne procrastine pas. J'avais déjà promis même Denise et les enfants que si on n'arrive pas à avoir une meilleure qualité de vie puis du potentiel, on retournera au Canada. Mm-hmm. Et donc, j'ai décidé de retourner à Montréal 6 mois après. Okay. Donc, pour moi, il y avait beaucoup de leçons. C'était la meilleure décision pour moi parce que pour moi, après ça, c'est fini. Le Liban est devenu, c'est toujours mon pays natal, mais puis je le visite assez souvent. Mm-hmm. J'ai toujours ma famille, mes parents sont au Liban, mais c'est devenu une destination de famille, de voyage. Ma vie était au Canada. Je savais que ma carrière va être ici à Montréal. Donc, ça m'a aidé à fermer donc un peu cette chapitre de ma vie puis me concentrer ici. Donc, j'ai beaucoup appris avec ça que, bon, c'est important de ne pas avoir plusieurs idées en tête puis de ne pas procrastiner. Puis même dans mes 6 mois au Liban, j'ai ouvert une autre compagnie. Okay. C'est là où est-ce que j'avais appris que, bon, pour moi, je n'ai pas la même façon de travailler au Liban. Donc, j'étais obligé de retourner, de fermer la deuxième compagnie au Liban. Okay. Donc, c'était 2 décisions où est-ce que j'ai appris beaucoup de choses avec. Je suis retourné à Montréal. Il fallait que je trouve un job parce que là, je ne pouvais pas m'essayer pour une troisième fois tout de suite. J'ai trouvé un job avec une compagnie où est-ce qu'on était déjà... c'était déjà un de nos clients. Okay. François était là encore, sans rentrer beaucoup de détails parce que c'était un peu compliqué. Okay. Puis quelques mois après, de nouveau, j'ai senti que je ne suis pas... Je suis pas fait pour être un employé, malheureusement. Mm-hmm. Et là... Claude était marié, il ne voulait pas prendre le risque. Okay. François aussi cherchait des opportunités. Et François et moi, on se complémentait aussi beaucoup. Mm-hmm. On travaille et c'est là où est-ce que François et moi s'est convaincu que c'était le temps pour nous de partir. Puis on s'est lancé en affaires le mois de septembre 2000. Donc ça va faire 23 ans dans quelques jours.
Puis ça, c'était Aïva.
C'est Aïva en 2000, exactement.
Puis ça, Aïva existe encore.
Oui, Aïva existe encore. C'est une compagnie qui date. C'est ça, 23 ans, qui a aussi changé beaucoup parce que notre plan d'affaires initial, c'était pour faire la technologie de la reconnaissance vocale. Ouais. Bon, c'était le pire timing pour partir en affaires en 2000 en technologie. Mmh. On s'est adapté, on a fait de la consultation. De là, on avait découvert des opportunités avec un de nos clients en télécommunication et on a lancé Atalka en 2003, donc 3 ans après.
Donc, est-ce que Aïva, vous l'avez laissé sur le côté, vous avez continué à travailler en même temps d'ouvrir l'autre compagnie?
Ah non, on a continué à le travailler.
Continue à travailler.
Ouais. Puis moi, je suis d'ailleurs de retour chez Aïva maintenant, à temps plein. Oui. Okay. C'est moi qui gère Aïva de nouveau.
Okay. C'est une compagnie... Comme PDG?
Je suis un peu... Je suis comme PDG. Okay. C'est une compagnie où est-ce que quand on avait vendu à Talca en 2012... Parce qu'on dit 2016, mais on l'avait vendu la première fois en 2012. Moi, je suis resté avec la compagnie. Ah, okay. Là, il fallait que je choisisse. Je ne pouvais plus gérer les 2 entreprises parce que là, il y avait des nouveaux investisseurs. Je leur devais tout mon temps. Donc, j'ai quitté Aïva comme PDG. Okay. Il y avait un de nos associés, Pierre, il est toujours associé, qui avait pris le relève. Okay. Puis dernièrement, suite à la vente de Cognibox l'année dernière, Pierre avait d'autres opportunités aussi, il y avait d'autres investissements. Okay. Et le timing était parfait pour moi pour retourner prendre le relève dans Aïva.
Ah, cool. OK, ouais. Ben, on va continuer à parler d'Atalka et tout ça parce que je suis curieux de savoir que Atalka était une immense... Ben, c'est ça, elle existe encore, mais sous...
sous Teletech.
Donc, on va en parler, mais avant, j'ai un petit segment qui est un peu plus interactif que je fais avec toutes mes invités. Vas-y. C'est le segment de mon commanditaire Bromar. Okay. Donc, on est rendu au segment présenté par mon commanditaire, l'entreprise Signalétique Bromar, qui vous propose des solutions pour vos besoins d'affichage, des enseignes personnalisées au lettrage de véhicules. Ils s'occupent de vous avec une approche humaine. Ils sont vraiment, vraiment cool parce qu'ils t'ont fait un beau cadeau en plus. Ils ont fait une belle plaque pour te féliciter de ta 4e saison à l'œil du dragon que tu repars avec. C'est super cool et ils l'ont fait pour une mention ce matin. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'eux sont à Longueuil. Ils l'ont fait livrer à Montréal ce matin.
C'est du service.
Leur spécialité, c'est les rushs. Fait qu'allez les voir pour vos besoins. Donc, j'ai une question par lettre pour épeler le nom de mon command star. OK? Bromor. Donc, la première question, B, batterie. Comment recherches-tu tes batteries?
110 volts, 220 volts. Okay. Je recherche... Ben, moi, c'est le sport. Mm-hmm. C'est le sport. Et c'est ça. C'est vraiment sport, famille. Pour mm-hmm. moi, c'est très important de passer du temps avec ma famille, mes enfants, mm-hmm. mes amis. Ouais. Donc, pour moi, ma vie sociale me recharge ma batterie. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça, c'est l'élément, la façon la plus efficace pour moi.
OK, cool. R, rencontre. Quelle a été ta rencontre la plus marquante?
Je dirais ma rencontre la plus marquante, c'était avec notre ange financier et qui est toujours un associé puis un ami, Pierre Raz, qui est le fondateur de Genetech, qui nous avait, qui avait cru en nous en 2000 quand on s'est lancé en affaires mm-hmm. avec Aïva, François et moi, puis personne y avait cru en nous. Il nous avait fait confiance sans me connaître. Première rencontre avec lui, mm-hmm. on avait pitché notre plan d'affaires. Pierre, sur le coup, il avait dit « Combien vous cherchez ?» On a dit « On cherchait 50 000. Mm-hmm. » Il a pris son chèque, puis il nous avait fait 5 chèques de 10 000 $ chaque. Okay. Il m'avait appris une leçon avec ça. Il m'a dit « Je ne peux pas vous donner 50 000 d'un seul coup parce que vous allez penser que vous êtes riche, vous allez les dépenser rapidement. Je vous donne 10 000 par mois. »
Ah, c'est vraiment bon, ça.
Et donc, c'était quelqu'un que j'avais jamais vu dans ma vie avant. Mm-hmm. C'était un collègue à François avant, mais juste un collègue de travail. Donc, mm-hmm. Il n'y avait même pas une amitié. Puis Pierre nous a fait confiance. Puis quand je l'ai demandé après, comment tu as cru en nous? Mm-hmm. Puis pour lui, ça, il y a 23 ans, 50 000, c'était beaucoup d'argent parce qu'il avait juste un start-up. Ça faisait pas longtemps en affaires. Mm-hmm. Maintenant, Genetech, c'est une des meilleures compagnies au Québec. Il a dit, ben Georges, vous avez l'air deux jeunes entrepreneurs intelligents, puis je vous ai fait confiance. Ça, en tout cas, on peut parler une heure de Pierre, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de après avec, mais c'est, je pense, en termes de carrière, c'est la personne qui avait marqué le plus de ma carrière.
Vraiment intéressant. Objectif, un objectif que tu as dans un court, moyen terme.
Ah ouais, tu parles au bon moment maintenant. Oui, hein? Mon objectif maintenant, puis... le timing n'est pas parfait pour en parler beaucoup parce que j'aime pas parler des choses que je ne sais pas faites, mais c'est un projet philanthropique que je travaille. Ah, ça, cool. C'est pour moi mon plus grand objectif maintenant. Okay. Tu sais, je suis privilégié de dire que j'ai eu, beaucoup de difficultés au début, mais on avait réussi quand même à bâtir plusieurs entreprises. Moi, c'est ma troisième exit dans des compagnies d'ailleurs.
C'est vraiment impressionnant.
J'ai réalisé, puis je ne veux pas avoir l'air un peu têteux de dire ça, que la réussite sans partager ou la réussite juste financière, à un moment donné, ça ne te donne plus une satisfaction. Donc, c'est de partager, de donner. Mm-hmm. Pour moi, c'est devenu beaucoup plus important. Donc, je travaille sur un projet philanthropique à Costa Rica que je vous partagerai très bientôt. Je suis au début du projet maintenant. Là.
OK, très intéressant.
Ça commence à se concrétiser.
OK, mais j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Alors, est-ce que tu as un mantra de vie? Une phrase que tu te répètes?
Je me répète pas une phrase, mais pour moi, être transparent, être authentique, pour moi, c'est l'élément le plus important. Mm-hmm. Le monde me connaît. Quand j'ai fait la première saison, la deuxième saison des Dragons, toujours le commentaire que j'entendais de mes collègues de travail, de mes amis, « Hey, Georges, t'es vraiment pareil à la télévision comme dans la vraie vie. » Puis pour moi, je dis « Mais c'est moi. Mm-hmm. Il n'y a pas de filtre.
» J'aime vraiment ça. Ouais. Apprentissage. Un apprentissage que tout le monde devrait savoir.
Un apprentissage, avoir un esprit ouvert. Pour moi, si quelqu'un me demande un seul caractéristique pour améliorer, pour s'améliorer dans la vie, je dis un open mind.
Ah, très bon. Ouais. Très, très bon. R, la dernière, résilience. Une épreuve qui t'a rendu résilient.
Ouf, plusieurs. Toute ma vie, j'ai eu des épreuves, que ce soit, partir du Liban à l'âge de 19 ans, on avait pris le bateau pour quitter le Liban au Chypre. J'avais pas mes papiers encore, j'arrive ici, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail. Je pensais que je parlais le français, mais je comprenais rien du québécois. que ce soit mes démarrages, le retour au Liban. Donc vraiment, chaque étape de ma vie, j'ai eu beaucoup de résilience. Puis c'est comment tu les gère et comment, donc, tu sais, ma séparation, enfin, il y en a plusieurs, ouais. Donc, ils sont tous des éléments ou des moments marquants dans ma vie que j'ai toujours pris positivement et je sens toujours avec moi pour me rappeler un peu de qui connaît, puis où est-ce que de où je suis parti, où est-ce que je suis maintenant, puis qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie.
C'est vraiment bon. Bon, ben super, c'est un super beau segment présenté par Bromore. Allez regarder ça, leur lien dans les commentaires. Je voulais qu'on continue à parler de Atelka parce que moi, ma question, puis j'ai peut-être posé déjà à François, mais ça fait longtemps que j'y ai parlé, c'est comment on part d'une compagnie comme ça, que vous vous dites, OK, on va commencer à Atelka, et que ça devient une compagnie à 3000, je pense, employés. Tu sais, comment, c'était quoi que vous avez fait de particulier pour que ça puisse grossir et garder cette croissance-là?
Mais écoute, quand on avait lancé Atelka, ça faisait pas partie de notre plan d'affaires.
Okay.
Donc, en partant, il y en a beaucoup qui me disaient, c'était quoi votre plan stratégique, plan de 5 ans, 10 ans? Puis honnêtement, je n'ai même pas un plan pour un an, moi.
Okay.
J'ai jamais fait des plans stratégiques de long terme. J'ai toujours eu des plans, des prévisions. Mais pour dire qu'on avait décidé en 2000 qu'on allait lancer Aiva et 3 ans après, on allait trouver cette opportunité. Donc, c'était saisir une opportunité. Okay. Quand je dis « open mind », ça fait partie aussi de ça. Donc, parce que, comme j'ai dit, en 2003, on était encore en train de trouver notre moyen de réussir avec Aiva. Et d'ailleurs, on avait un contrat chez Fido, c'est pas grave si on va le dire, en consultation. On faisait donc la technologie, on faisait la maintenance de leur centre d'appel technologiquement. Donc, on n'a aucune expérience dans les opérations parce que développer une technologie de centre d'appel, c'est une chose, puis gérer les opérations dans un centre d'appel, c'est complètement un domaine différent. Okay? Ça, c'est un peu comme dire quelqu'un est un mécanicien, il connaît bien les moteurs versus le conducteur de la voiture course. Okay? Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, pour nous, François était là, puis il m'appelle un jour, puis il dit Fido, il se plaignait, il était pas satisfait de leur partenaire en outsourcing dans les centres d'appel. Donc, c'était ça. Mais j'ai dit, mais tu sais, peut-être qu'il y a une opportunité pour nous. Il a dit, pourquoi pas? Et donc, Atelka est né d'une opportunité, d'une conversation que François a entendue parce qu'il était chez le client, et où est-ce que nous, on a osé, on était peut-être aussi, je dirais, là-dedans, il y a clairement l'élément le plus important, c'est qu'on avait osé. Puis, c'est ça qui avait fait, et on était ignorants. On était un peu comme naïf. C'est qu'on avait pensé qu'on va être capable de se lancer en affaires dans un nouveau domaine. Et cette naïveté nous a permis de dire oui aux clients, de faire une offre, puis de s'adapter. Parce qu'encore là, l'offre, encore on peut parler des heures, mais on est parti d'une proposition où est-ce qu'on ne pouvait pas l'exécuter, il fallait qu'on trouve donc de s'adapter. Donc l'adaptation nous a aidé à trouver d'ailleurs un modèle d'affaires encore plus intéressant pour le client. Et Aiva est parti septembre 2003, donc le mois de septembre est un mois important pour nous, plusieurs choses sont arrivées. On est parti avec un contrat de 15 agents, c'était ça le début. Puis avec donc cette adaptation, cette flexibilité qu'on avait offert au client, ça a complètement tourné, changé notre vie. Je me rappelle bien, au début, on faisait la paye des employés avec un fichier Excel, là, tout le mois de mars, donc quelques mois après, mars 2004. Là, je dis, OK, je peux plus faire la paye de 200, 300 employés en fichier Excel. Là. Et donc, on est parti de là, on s'est adapté, on a écouté le marché, on était compétitif, on a travaillé fort, François et moi et Claude. Puis après ça, comme on dit, the rest was history.
Super intéressant qu'est-ce que Georges nous dit, mais je dois arrêter le podcast pour une petite minute parce que je veux vous parler du commanditaire d'aujourd'hui, Biconnex. Business Connection Biconnex est un écosystème de développement des affaires. Permet de trouver des entrepreneurs, des experts et des investisseurs qualifiés pour développer vos affaires en bâtissant votre écosystème. Biconnex a développé des partenariats avec des influenceurs pour générer la visibilité dont tu as besoin
et te rémunérer pour ton contenu et tes références dans l'écosystème. Pour avoir accès à la communauté exclusive d'entrepreneurs de Biconnex, vous trouverez mon lien en description. Créez votre profil, posez vos questions, affichez vos services, vos formations, connectez votre site web, interagissez avec les autres entrepreneurs et accédez aux conférences et générez des revenus supplémentaires chaque mois. Payez l'abonnement de 60$ par mois ou 600$ par année pour recevoir jusqu'au tiers des revenus générés pour vos contenus d'expertise apportés à la communauté. Recevez un revenu récurrent via le système d'affiliation mois après mois de 15$ par personne référée payant l'abonnement. Aujourd'hui, je vous offre 30 jours gratuits pour afficher vos services en ligne et échanger avec l'écosystème. Faites vite car à partir du mois d'octobre, plusieurs grandes campagnes d'influenceurs vous assureront une grande visibilité et un trafic significatif sur la plateforme pour ceux qui sont déjà inscrits. Donc, allez voir mon lien en description pour en apprendre plus sur Biconnex. Et si vous voulez créer votre propre profil, vous pouvez même voir mon podcast et toutes les choses que je pose autour de mon podcast sur la plateforme de Biconnex. OK, on retourne au podcast.
Puis, est-ce que, dans le fond, juste pour si les gens n'ont pas trop bien suivi, chaque employé que tu parles est 15 puis qui était rendu 200, 300 et même 3000, ouais. C'est tout des. La majorité, c'était des gens qui répondaient
oui,
au téléphone.
On faisait du service soutien exact. Technique, donc mm-hmm. Il y avait beaucoup de formation. Mm-hmm. Puis donc, nous, on prenait le risque parce que il y a les taux de roulement sont élevés, le client ne garantit jamais qu'il va te donner un contrat pour un an. Donc, mm-hmm. On a pris. Donc, le risque qu'on avait pris de dire oui, même si on n'avait pas des garanties des clients qu'il allait nous garder, admettant ses contrats mm-hmm. pour long terme. Nous a aidés. Et donc, rapidement, on est devenu le plus grand centre d'appel canadien spécialisé dans le télécom. Là. Donc, entre 2003 et 2012, parce que c'est en 2012 qu'on avait fait la vente ouais. de Atalka à un private equity, donc une compagnie de capital, c'est pas capital de risque, mais d'investissement,
ouais.
un fonds d'investissement. En 9 ans, on était 3000 employés. On n'avait pas de dette, mm-hmm. donc on a toujours opéré, on a toujours investi dans la compagnie avec nos profits. Avec...
Ça, je suis curieux, qu'est-ce ouais. que tu en penses que souvent, nous aussi, nous, on a une entreprise, pas de dette. Puis souvent, quand je dis ça, moi, je suis fier parce que je suis content, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme « Ah, mais il faut avoir des dettes, qu'est-ce que tu en penses? »
Écoute, c'est pas vrai qu'il faut avoir des dettes, mm-hmm. OK? S'il faut avoir des dettes, si on a besoin d'avoir des dettes, ben on est obligé d'avoir ouais. des dettes pour opérer. Mais même ça, il faut juste faire attention qu'on a des dettes, qu'on est capable de... Regarde maintenant qu'est-ce qui t'arrive avec les taux d'intérêt. Mm-hmm. Donc, ceux qui sont endettés. Donc, toujours, même avec des dettes, il faut faire des scénarios où est-ce qu'on n'est pas endetté à un moment donné qu'on n'est plus capable d'opérer. Mm-hmm. D'ailleurs, nous, c'est ce qui nous a aidés en 2008 durant la crise,
ouais.
C'était une des meilleures années pour nous parce okay. qu'on n'avait pas de dettes et nos compétiteurs qui avaient des dettes, ils n'étaient plus capables parce que là, il y a eu un ralentissement. Donc là, qu'est-ce qui arrive? T'es plus capable. Donc, ton premier objectif c'est de repayer tes intérêts et des dettes. Mm-hmm. Donc, tu ralentis tes opérations.
Mm-hmm.
Et donc, ne pas avoir des dettes, c'est une flexibilité incroyable pour ton business. Et non, il ne faut pas avoir des dettes. Si on est obligé d'avoir des dettes, on va les avoir avec la précaution, mais non, c'est pas nécessairement toujours. Moi, j'en connais plein de compagnies. D'ailleurs, il y a 3 ans ou 4 ans qu'on avait investi dans Cognibox en 2019. Mm-hmm. Ça, c'était ma dernière exit. J'avais des partenaires financiers, puis j'ai dit, on va faire l'acquisition de Cognibox en équité seulement. Même eux, ils étaient surpris parce que, Georges, pour toi, c'est pas bon parce que tu fais pas un levier financier.
Ouais.
Je dis, je m'en fous, moi, je veux avoir la tête tranquille, puis je veux dormir bien la nuit parce que c'était 2019, je sentais qu'on allait avoir un ralentissement. Il n'y avait personne qui avait pensé qu'on allait avoir le COVID. Et ça nous a aidé aussi que le COVID a frappé.
Ouais.
Puis, au contraire, ça nous a aidé à accélérer parce qu'on était une compagnie solide, pas de dette et pas de soucis à payer nos intérêts et nos paiements à la banque. Donc,
C'est vraiment intéressant. Puis, comment ça se... Avant de parler de la vente de Atalka, c'est quoi ton souvenir d'être dans une aussi grosse compagnie, de travailler daily comme dirigeant d'une aussi grosse, c'est quoi ton souvenir? Est-ce que tu aimais ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu sentais que c'était trop différent qu'au début?
Ben non, mais je m'adaptais honnêtement parce que, rappelle-toi que moi, j'ai pas travaillé dans une grande compagnie avant. Donc, moi, j'étais univoque, couple d'années.
Ouais.
Et donc, j'ai pas eu un mentor dans ma vie, donc pour dire... Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai appris par moi-même.
Okay? Ouais.
C'était soit par des erreurs ou par des observations ou par des lectures. Donc, je me suis adapté. On est parti de 15 employés, puis j'écoutais, puis j'ai embauché des personnes plus fortes que moi dans le domaine.
Mm-hmm.
Ça, c'était un élément important. Et puis, je me rappelle bien au début, notre VP HR, qui s'appelle Claude, je rentrais une fois dans le bureau, Puis là, tu sais, moi, je suis assez quand même, je peux être loud, comme okay. on dit. Puis là, donc, Claude vient me voir, puis il me dit, Georges, tu sais que quand tu passes dans le corridor, parce qu'on avait comme un long corridor okay. pour dans nos bureaux, tu sais, la façon que tu rentres le matin, ça va setter le mood pour la journée. Donc, okay. donc si tu es de mauvaise humeur, là, donc, ça va impacter tout le monde. Puis, tu sais, j'ai appris ça. J'écoutais mes VP. Pour mm-hmm. Quelqu'un d'autre, il aurait pu être fâché. Comment ça se peut quitter toi pour me dire comment c'est moi mm-hmm. le boss? Mais pour moi, je prenais l'expérience de tous mes exécutifs qui avaient mm-hmm. plus d'expérience que moi. Puis, je m'adaptais. Ça ne veut pas dire que je l'ai écouté toujours, parce que parfois, je rentrais de mauvaise humeur. Mais quand même, mm-hmm. plein de choses comme ça où est-ce que tu t'adaptes et tu apprends et tu t'entoures des bonnes personnes. Mm-hmm. Et puis... ouais. C'est ça, c'est la croissance, malgré qu'on a vraiment eu beaucoup de croissance rapide. Mm-hmm. Mais bon, je pense qu'on avait réussi à bien gérer, on avait réussi à bien vendre la compagnie mm-hmm. deux fois, la première fois en 2012, après ça en 2016.
Est-ce que tu peux m'expliquer ça un peu? Pourquoi, comment, est-ce que c'est la première fois que vous avez eu un offre, ça ne vous tentait même pas, puis là, vous avez eu une offre, vous avez accepté, ou comment ça se passait la première fois?
Écoute, plusieurs choses sont arrivées, là, parce qu'on avait eu une première tentative en 2007-2008, okay. qui était déjà très bonne. Puis parfois, comme on dit, on ne sait jamais, tu sais, les choses à répondre. Puis ça n'a pas fonctionné, ça nous a fait beaucoup mal.
Parce que vous vouliez. Là.
Exactement. Mais on ne voulait pas au début. Quelqu'un nous a approché, puis bon, on a appris beaucoup parce qu'ils ont pris du temps. Ils nous ont, excusé pour le terme, niaisé. Mm-hmm. Ça a pris un an. Donc, puis là, on était plus concentrés sur les opérations. Ça nous a quasiment coûté la compagnie.
Ah, ouais.
Donc là, on s'est réajusté en fin 2008. On s'est resserré un peu les bras, comme on dit, bien géré. Et en 2012, on avait un ami là, qui était dans le business des ventes acquisitions, ouais. fusion acquisition. Nous avait dit « Ah, le marché est bon, puis est-ce que ça vous intéresse? » Moi, mm-hmm. j'ai lancé un chiffre, j'ai dit « Si tu nous apportes tel chiffre, mm-hmm. bon, on écoute. » Puis c'est ça qui est arrivé. Puis honnêtement, mm-hmm. ça, c'est aussi une autre leçon que j'ai appris parce que le monde parfois me demande « Est-ce que je dois vendre ma compagnie maintenant? Pourquoi tu as vendu?
Ouais. »
Honnêtement, je leur dis « Je ne le sais pas. » Parce mm-hmm. que le plus important pour moi, puis qu'est-ce que je peux partager avec les autres, c'est que si tu te demandes si tu dois vendre ta compagnie ou non, clairement, si tu as des problèmes personnels et tu ne peux plus l'opérer, c'est que qu'est-ce que tu veux faire après? Parce que mm-hmm. c'est pas important juste que tu vendes. Mais moi, j'avais 42 ans mm-hmm. Quand on avait eu l'offre.
En 2012.
Ouais. Ça allait super bien. On n'avait pas de dette, comme mm-hmm. j'ai dit. On avait encore la croissance. Puis financièrement, on était bien. C'est pas comme, OK, j'avais hâte ou besoin de l'argent parce mm-hmm. que comme Doug, celui qui nous avait acheté, il me demandait qu'est-ce qui va nous garantir qu'après l'acquisition, tu vas te concentrer sur le business. Tu n'as pas commencé à rêver à ta Ferrari et tout. Mm-hmm. J'ai dit, Doug, avec tout respect, j'habite à Upper Westmount. Mes enfants vont à la meilleure école à Montréal mm-hmm. et j'ai déjà ma Ferrari, ma Maserati dans okay, ouais. la Porsche. Donc, ça, rien ne va changer dans ma vie. C'est vrai. Ça m'a donné plus, d'ailleurs, de stress de juste de vendre. Puis bon, là, tu as du capital. Puis un mm-hmm. entrepreneur, pour moi, c'était contre ma religion de juste vivre d'un capital ou des intérêts.
D'être assis, regarder les armes.
Donc, tu ne peux pas faire ça. Et donc, je n'étais pas prêt. Donc, pour moi, c'est que ma raison d'être n'était plus là. Mm-hmm. Donc, oui, on avait vendu. Pourquoi? Honnêtement, je ne le sais pas. Peut-être mm-hmm. j'étais un peu fatigué des ouais. opérations. Mais pour moi, la leçon que j'ai appris après, c'est que pense à après. Est-ce que tu es prêt pour... Si quelqu'un, il a déjà un plan à l'âge de la retraite ou ouais. il veut faire le tour du monde, il veut, je ne sais pas, oui. Mais parce que, un, tu ne sais pas après qu'est-ce que tu veux faire. Puis deux, statistiquement, déjà réussir en affaires, le pourcentage est petit.
Ouais.
Puis les statistiques démontrent réussir en affaires une deuxième, une troisième fois, c'est encore plus difficile. Mm-hmm. Et je l'ai vu après avec plusieurs personnes que j'ai connu en affaires où est-ce qu'ils ont fait des belles sorties, ils ont mm-hmm. plusieurs dizaines, centaines, même de millions parfois, mm-hmm. mais ils n'ont pas pu refaire ça une autre fois. Et non, donc là, tu t'assois, tu as de l'argent, tu investis à gauche, à droite, mais ce n'est pas pareil. Mm-hmm. Moi, j'étais joyeux, j'étais vraiment... Puis ça me donne, d'ailleurs, même l'anxiété. J'ai 52 maintenant, je vais avoir 53 bientôt. Mm-hmm. J'ai fait deux exits après ça, très réussite. Mm-hmm. Puis encore, ça me tente de faire ça,
ça c'est
mais
cool.
c'est comme, OK, j'ai... Jamais 203, mais là, est-ce que je vais réussir encore une quatrième ouais, fois? Parce qu'on ne parle pas des petites exits, là, parce que parfois, il y en a qui parlent « je suis un entrepreneur de série », puis je déteste ce mot parce que oui. Je ne suis pas un entrepreneur de série. Ça a donné comme ça que j'ai eu 3 opportunités. Mm-hmm. Puis pour ceux qui parfois ils disent « ah, je suis un entrepreneur de série, j'ai fait telle compagnie, sorti, rentré, sorti », puis c'est des petites compagnies, ça, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui commence un projet, il ne le finit pas.
Ouais,
moi, on avait commencé à Iva, elle est toujours là. Fait à Talca, c'est fini. Je me suis associé avec Genetech après.
Okay.
Une belle sortie. Et fait l'acquisition de Cognibox. Avec 3 ans, on avait rendu Cognibox une des meilleures compagnies dans son domaine après 3 ans seulement.
Okay.
On a eu une belle opportunité de sortir. On est sorti. Donc, pour moi, toujours, je dis, faites attention à sortir ou à faire un exit. Parce que c'est jamais sûr qu'on peut être capable de répéter. Puis il ne faut pas qu'on devienne arrogant puis on pense qu'on a une formule, parce qu'il n'y a pas une formule magique pour la réussite.
Puis est-ce que toi, tu as vu dans tes expériences de sortie que tu te dis hey, « c'est tellement cool de rentrer dans un projet puis sortir avec une belle exit » que tu te dis « est-ce que tu vises ça maintenant à chaque fois? » Quand tu rentres dans un projet, tu te dis « ah, j'ai hâte de faire un
non,
exit. »
Mais c'est ça, tu vois, ça c'est une autre leçon. Puis d'ailleurs, moi-même, je faisais l'erreur quand je voyais des entrepreneurs au début qui venaient faire donc un pitch de vente pour leur projet. La première question, on leur demande, c'est quoi ton exit strategy? Puis je m'excuse d'ailleurs s'il y en a qui m'ont entendu dire ça, que c'est la pire question que tu peux demander.
Ah ouais.
Si tu rentres, c'est comme, oui, mais oui, je peux comprendre qu'un investisseur veut un exit, mais quand tu vas dans une compagnie avec déjà une idée de exit, c'est que tu ne travailles pas pour le long terme. Mais quand tu ne travailles pas pour le long terme, mais tu ne vas pas bâtir quelque chose qui est solide.
Mm-hmm.
Ça, c'est extrêmement important. Je dis toujours, puis je n'aime pas donner cet exemple, ça, c'est comme si tu te maries tout de suite avec le contrat de divorce.
Ouais, c'est ça.
Il ne faut pas faire ça. Mm-hmm. Oui, ça pourra avoir l'exit après, mais quand tu travailles avec le long-term vision, ça va te donner des meilleurs résultats, même à court terme.
Mm-hmm.
Okay? Ouais. Et donc, pour cela que non, quand je suis rentré chez Cognibox, dans ma tête, je suis là, puis probablement ça allait être ma dernière opération, parce que, bon, à un moment donné, je ne voulais pas faire ça tout le temps, mais ça a donné. Je suis rentré avec un plan de long terme, pour cela que je n'ai pas pris des dettes pour la compagnie, parce que je voulais investir dans la croissance. Ça a donné. Bon, on était chanceux, on a eu des réussites. Le marché était très favorable pour nous. On a fait notre exit, mais je ne suis pas rentré avec l'idée de exit.
Puis cette compagnie-là, juste parce que je ne l'ai jamais vue nulle part, c'était quoi que vous faisiez? C'était quoi le chiffre d'affaires à un moment donné? Juste pour me donner une idée, c'était quoi?
Juste pour vous donner une idée, Cognibox, c'est une compagnie qui existe depuis très longtemps à Shawinigan.
Okay.
Donc ça, c'est une compagnie complètement qui était un domaine en technologie, mais complètement nouveau pour moi, et que j'ai eu l'opportunité donc de connaître la dirigeante de l'entreprise ou la fondatrice de la compagnie Chantal. Puis c'est une compagnie qui, ça faisait 40 ans qu'ils sont à Shawinigan. Puis quand donc j'ai eu cette opportunité, plusieurs de mes collègues, de mes amis, ils disaient « Georges, mais t'es fou, tu vas prendre une compagnie de Shawinigan qui est quand même bien établi au Québec, mais qui veut aller à l'international, parce que c'était ça notre but.
Ouais.
C'est très difficile, la culture, etc. » Puis moi, le plus que tu me mets des bâtons dans les roues, là, le plus que je veux les dépasser. Et d'ailleurs, c'était un excellent apprentissage pour moi. Un, on avait une compagnie très solide d'un point de vue produit, très bonne réputation au Québec, mais en effet, on n'avait pas l'expérience à l'extérieur. Et ça, c'était un autre apprentissage pour moi de travailler, de changer la culture, de faire un changement d'une compagnie. Puis ça, ce que je dis toujours, j'ai dit, moi, j'étais très privilégié dans ma carrière. J'ai eu à cofonder des entreprises. C'est une expérience complètement différente. J'ai eu à m'associer à Genetech, qui était déjà une compagnie comme stable, puis l'amener à un autre niveau, complètement un autre défi, parce que là, tu rentres dans une compagnie, t'es nouveau partenaire, et puis, bon, là, il faut que tu te positionne et tu aides l'équipe existante. Et j'ai eu à acheter une compagnie et repartir et changer la culture et la mission. Puis c'était complètement un apprentissage différent. Puis chacune de ces 3 entreprises m'a appris beaucoup de choses. Et juste pour te donner une idée avec Cognibox, je ne peux pas rentrer dans les chiffres d'affaires, mais nous, on mesure notre succès ou notre business, c'est par le nombre de fournisseurs. Sans rentrer dans beaucoup, tous les détails techniques. Donc, quand on est rentré chez Cognibox, on avait 6 000 fournisseurs comme clients. Et quand on a vendu 3 ans après, on avait plus que le double. Donc, on avait à peu près 12-15 000 fournisseurs. Wow. Et une liste donc, de onboarding des nouveaux fournisseurs pour un autre 10 000.
Okay.
Tout ça en 3 ans. On a gagné des contrats à l'international, on a gagné des contrats au Canada. Mm-hmm. Tout ça en faisant vraiment, en changeant la culture, mm-hmm. en focusant, en changeant, parce que pour moi, les valeurs, là, puis j'avais implanté les valeurs à Cognibox, c'était transparence et excellence.
Okay.
Pour moi, ce sont les deux mots. C'était juste 2 valeurs. Il n'y avait pas 5-6 valeurs. Mm-hmm. Je dis, pour nous, là, c'est la transparence parce qu'on voulait s'assurer qu'on est une compagnie, que les clients nous font confiance, mm-hmm. parce que la confiance vient de la transparence et l'excellence. Si tu veux réussir dans ta vie à tous les niveaux, personnel, mm-hmm. Famille, affaires, c'est l'excellence. Tu dois travailler fort.
Mm-hmm.
Pour moi, c'était hors question. Je tolérais tout, mais pas ceux qui ne travaillaient pas fort.
J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis ça, Cognibox, c'est la compagnie que tu as acheté.
J'ai fait l'acquisition en 2019, sorti en 2022.
D'une partie ou de tout?
Non, on avait acheté avec des... J'avais des partenaires financiers. Okay. Et d'ailleurs, j'avais choisi mes partenaires financiers en conséquence de mes valeurs parce mm-hmm. que je voulais que ce soit à long terme. Donc, j'étais avec des fonds d'investissement comme la BDC et okay. le fonds d'action
okay.
qui n'ont pas un... exit stratégie à
ouais,
court terme pour ne pas avoir cette pression.
Mm-hmm.
Et donc, on est rentré. J'étais le lead investor, comme on dit, ouais. et le PDG.
Mm-hmm.
On a acheté la compagnie. Le management est resté aussi. Ça, okay. ça nous a aidé beaucoup
cool.
de connaître, de travailler, de collaborer parce que mm-hmm. moi, je connaissais pas du tout ce business. Puis ça a été vraiment une belle sortie pour tout le monde. Tout le monde avait réussi là-dedans.
Puis je suis curieux, quand, exemple, comme toi, que tu as du capital, puis là, tu achètes, tu fais une acquisition comme ça, puis tu étais le lead dans cet investissement-là. Est-ce que tu te mets vraiment à risque de dire si ça ferme, j'ai bon, vraiment foiré?
Clairement. Mais pour moi, ma plus grande crainte, c'était même pas mon argent, c'est l'argent des autres.
Mm.
Parce que tu sais, de perdre ton argent, puis tout est relatif dans le sens que j'avais aussi, j'ai pas pris un risque financier pour mettre. Parce que pour moi, j'ai aussi une autre. Conditions quand je fais des investissements, puis ça, je l'essaie de travailler. Je travaille avec mon fils maintenant, puis ça, okay. c'est vraiment le fun. On commence à faire un peu, on travaille dans un autre family holding, qu'on ne veut pas prendre risque avec qu'est-ce qu'on avait bâti.
Okay.
Dans le sens que, bon, oui, il faut prendre le risque. Donc, j'ai mis de l'argent dans Cognibox, parce que si j'ai perdu, mais ça va pas nous impacter d'une façon incroyable.
Oui,
ça allait impacter.
Mm-hmm.
Et donc, pour cela que tous mes investissements que je fais maintenant, tu sais, au début, tu prends beaucoup plus de risques.
Mm-hmm.
Maintenant, j'ai pas besoin de prendre ce risque
mm-hmm.
pour me stresser, pour rien. J'ai pas besoin de plus d'argent.
Mm-hmm.
Je prends plutôt des risques mm-hmm. où je prends des décisions d'affaires, où est-ce que je me trouve des défis, un challenge, où est-ce que va me satisfaire au niveau. Donc, pour moi, la réussite de Cognibox m'a... tu sais, je suis fier, ma fierté n'est pas de combien d'argent j'ai fait avec, c'est surtout de où est-ce qu'on avait amené la compagnie
mm-hmm.
et comment on a réussi à l'amener d'une compagnie à Shawinigan à maintenant une compagnie où est-ce que c'est un fonds de l'Angleterre qui nous avait acheté.
Okay.
Qui ne nous auraient jamais nous acheté avant parce mm-hmm. qu'ils ne nous connaissaient pas. Et pour moi, ça, c'était le plus grand défi. C'était la réussite pour mm-hmm. moi.
Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Là, on manque même de temps. D'habitude, j'ai des sections que je fais avec tous mes invités, mais on va skipper parce que c'était juste trop intéressant. C'est trop intéressant. Une dernière question rapide.
Vas-y.
Maintenant, tu passes beaucoup de temps au Costa Rica.
Oui.
Comment tu trouves ça, habiter là-bas? Puis aussi, c'est quoi tes projets là, ouais. avec le Costa Rica, rapidement?
Mais écoute, rapidement. Moi, j'ai jamais été à Costa Rica jusqu'à l'année dernière.
Okay. Okay,
janvier 2022, on décide d'y aller parce qu'on était tanné du COVID. Je suis en logiciel, ma fille, ma blonde, mon fils. J'ai dit, let's go. Moi encore, je suis un gars qui prend des décisions ouais. vite. Je me mets sur Airbnb. Je trouve une maison qui répondait à nos besoins. On part à Costa Rica. J'avais jamais été avant. Je savais même pas où y aller. Ça a donné, on était dans une magnifique place proche de Nosara, qui est très okay. connue là-bas. Après 2 mois, je dis, waouh, ça sera cool d'avoir peut-être un pied à terre. Parce mm-hmm. que pour moi, chaque fois que j'allais dans le sud, je dis, OK, il faut à un moment donné avoir oui. un pied à terre parce que, bon, on est tanné du
cool,
l'hiver
ouais.
québécois.
Mm-hmm.
Puis, bon, je commence à regarder, mais encore là, un peu toujours mes sensors entrepreneuriales. Et on dit, ah, il y en a beaucoup d'opportunités. Au lieu d'acheter une maison, peut-être acheter un petit terrain, faire coupe mm-hmm. de maison. Et là, maintenant, on est dans un projet à Marbella qui va être magnifique. On a trois phases en construction ou en train de commencer la construction. On fait 60 maisons. Donc, on est parti. Moi, je suis un gars d'informatique. Je suis un gars de je sais pas quoi, service. Mm-hmm. Puis là, je fais de la construction d'un projet touristique. Si tu veux, c'est du comme du rental à court terme. Donc, short-term rental.
Ouais.
Ça va être un projet incroyable parce que je le fais aussi pour supporter ceux qui veulent travailler à distance. Pas pour les digital nomades comme on les connaît, mais c'est surtout pour des compagnies qui veulent peut-être récompenser leurs employés, leur amener dans des places. Parce que moi, je l'ai vécu. Mm-hmm. J'ai travaillé là-bas. Je travaille toujours là-bas quand je pars. C'est vraiment, ça nous donne un environnement, ça nous offre un environnement incroyable pour se ressourcer, pour se reposer, puis être créatif, puis travailler.
Mm-hmm.
Et donc, on développe un projet. J'ai des associés avec moi de Montréal. Puis, donc, c'est ça, on a 5 terrains magnifiques proches de la plage, dans un petit village qui va être magnifique. C'est vraiment, c'est mon rêve. Puis c'est là où est-ce que, pour moi, le plus important aussi, il y a mon projet philanthropique qu'on va parler plus en détail très bientôt, j'espère.
Super, ben vraiment cool. Merci beaucoup, Georges, d'être venu.
Merci.
C'est super cool. Est-ce que tu veux que je mette un lien dans les commentaires, le lien de tes maisons au Costa Rica?
Pas encore. Est-ce que j'ai pas encore le site web?
OK, parfait. Est-ce que tu veux que je mette le lien de ton Instagram?
Instagram et Facebook. Whatever, Instagram ou Facebook.
Suivez Georges dans ses projets. C'est ça, puis on attend ton projet philanthropique.
Ben oui, ça, c'est vraiment cool.
Fait que si vous voulez plus de capsules comme ça, plus d'entrevues, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez, commentez, partagez tout ça. Merci, à la prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.